nouvelle édition.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Pierre Pinto.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RFI dans 30 minutes. Notre débat du jour consacré au processus électoral en Centrafrique à 2 mois et demi du début programmé des élections. Le recensement électoral a pris du retard. Plusieurs fois prolongé à Bangui, la capitale, il démarre à peine en province. Par ailleurs, les réfugiés et déplacés devraient pouvoir participer aux élections. C'est en tout cas ce qu'a décidé la Cour constitutionnelle la semaine dernière, qui a donc désavoué la décision du CNT, le Parlement de transition, d'écarter les réfugiés déplacés de ces scrutins. Alors, quel regard portez-vous sur ce processus électoral en RCA? Le calendrier qui prévoit des élections en octobre et novembre est-il tenable? Dans quelle mesure ce vote des réfugiés est-il possible? Comment expliquer aussi le faible engouement provoqué par le recensement électoral? Appelez-nous, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Mais avant cela, comme chaque jour, c'est l'heure de vos questions à la rédaction. Vous souhaitez approfondir un sujet d'actualité traité à l'antenne. Les journalistes de la rédaction sont là pour vous répondre. Et ces derniers jours, vous avez été nombreux à nous poser des questions sur la Turquie et l'organisation État islamique. Ce revirement dans l'attitude d'Ankara vis-à-vis de l'organisation djihadiste. Ousmane, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous nous appelez de Bamako et vous avez justement une question à poser à ce sujet.
Exactement.
On vous écoute.
En fait, un attentat suicide est attribué au Ali, a touché la ville de Suruk au sud de la Turquie. Et en représailles, la Turquie mène pour la première fois des frappes sur les positions du groupe État islamique en Syrie. Bon, ma question est de savoir pourquoi l'EU décide maintenant de s'attaquer à la Turquie alors que celle-ci était connue pour son soutien à cette organisation.
Pour vous répondre, nous sommes en ligne avec le correspondant des RFI en Turquie, Jérôme Bastion, bonjour.
Bonjour, bonjour à Ousmane également.
C'est vrai qu'il semble que l'attentat suicide attribué à l'État islamique à Suruç, près de la frontière syrienne, il y a 8 jours, a, semble-t-il, marqué un tournant. Comment expliquer, Jérôme, cette volte-face, ou au moins ce changement d'attitude et de stratégie de la Turquie face à l'État islamique?
Alors en fait, ça a provoqué effectivement une sorte d'électrochoc, un effet catalyseur, pas tellement au niveau de la Turquie et de la prise de conscience parmi les responsables turcs, mais surtout ça a donné une bonne raison aux Américains de pousser, d'influencer, de forcer la Turquie cette fois-ci à agir en leur disant, vous voyez bien, on vous avait dit qu'un jour ou l'autre l'État islamique se retournerait contre vous, donc il faut maintenant agir. Ça fait 1 an qu'on vous demande de participer à la coalition internationale de manière active pour se débarrasser, mettre hors d'état de nuire, repousser ou éviter l'expansion de l'État islamique. Jusqu'à présent vous n'avez rien fait, maintenant ça devient grave, ça vous frappe vous-même sur votre sol, donc il faut agir. Et c'est comme ça que les Turcs ont décidé, donc un petit peu forcés par la communauté internationale, par les États-Unis, c'est comme ça que la Turquie a décidé de changer d'attitude et d'en finir avec... On ne peut pas vraiment parler de soutien parce que rien n'abonde véritablement dans ce sens, il n'y a pas véritablement de preuve d'un soutien politique et formel à l'État islamique en tant que tel, mais plutôt aux groupes rebelles en Syrie qui, pour certains, sont passés du côté de l'État islamique il y a quelques années. Il est certain que la Turquie fait un petit peu les yeux doux à ces groupes islamistes parce qu'ils présentent une menace contre le régime de Bachar el-Assad et que la Turquie aimerait bien voir tomber le régime de Bachar el-Assad. Mais on ne peut pas parler non plus de soutien direct. En tout cas, la Turquie a dû changer de position, d'attitude effectivement, et maintenant non seulement elle a bombardé, mais en plus elle va verrouiller sa frontière et elle va travailler véritablement main dans la main avec les États-Unis, dont c'était la priorité, contre l'État islamique.
Il y a d'ailleurs une réunion à l'OTAN ce matin à Bruxelles. Hein.
Oui, absolument. Alors, c'est une réunion simplement pour informer les partenaires de la Turquie au sein de l'OTAN, mais c'est une réunion qui peut éventuellement ouvrir la voie à une deuxième réunion qui, cette fois-ci, serait une demande formelle d'aide de la Turquie à ses partenaires pour participer à la défense de la Turquie contre des menaces extérieures. Probablement, ça ne sera pas le cas, mais en tout cas, c'est une réunion d'information pour faire le point sur la situation, à la fois, d'ailleurs, sur le plan de la lutte contre l'État islamique et à la fois sur le plan de la lutte contre le PKK, puisque la Turquie joue en ce moment sur les deux tableaux.
Alors justement, Jérôme, vous restez en ligne avec nous, puisqu'on a justement une question au standard sur ce sujet. Ismaël, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Vous nous appelez de Conakry et vous avez une question pour Jérôme Bastion, justement sur cette question du PKK, le Parti des Travailleurs du Kurdistan. On vous écoute.
Exactement. Et depuis l'attentat de Suruç, la tension est de plus en plus forte entre le gouvernement turc et les rebelles kurdes du PKK. Donc ma question est la suivante. Quelles sont les conséquences pour le très fragile processus de paix entre le gouvernement turc et le PKK et surtout pour l'équilibre dans la région?
Alors c'est vrai, Jérôme, qu'on a vu ces derniers jours les forces turques frapper non seulement l'État islamique, mais aussi les positions kurdes, et notamment celles du PKK, au point que certains se demandent même si Ankara n'a pas utilisé le prétexte de l'État islamique pour régler ses comptes avec les mouvements kurdes.
Oui, effectivement, ça a été la surprise, hein, parce qu'après l'attentat de Suruç, donc il faut rappeler qu'il a été attribué, d'après l'enquête policière, par les autorités turques à l'État islamique, mais qui n'a pas été revendiqué par l'État islamique, il faut le signaler, parce que en général, l'État islamique revendique ce genre d'action violente. Là, pour l'instant, ça n'a pas été revendiqué officiellement. Mais enfin, tout laisse à penser que c'est l'État islamique qui l'a commis, et en tout cas, c'est ce qui a été effectivement le déclencheur de cette double opération, cette double guerre en quelque sorte, et ça a été un peu la surprise de découvrir que, au moment où on s'attendait que la Turquie effectivement déclenche sa guerre contre l'État islamique, elle a en même temps déclenché la guerre contre le PKK. Alors, il semble que ça soit en quelque sorte le résultat d'un marché, si on peut dire, avec les États-Unis. Les États-Unis poussent, on l'a dit, la Turquie depuis longtemps à entrer activement dans une lutte active contre l'État islamique, et la Turquie traîne des pieds. Parce que au début, c'était l'argument qui était utilisé. Nous, on ne peut pas appeler ces gens-là des terroristes. C'est une partie de la société qui est frustrée et qui exprime, certes avec un peu de violence, mais qui exprime sa frustration et qui veut rétablir une sorte de justice dans les pays où ils sont. Bon, donc Ankara se refusait à appeler ces gens-là des terroristes. Ils ont bien été obligés quand même petit à petit d'en venir là, notamment avec les attentats de ces derniers temps. Mais ils ont dit aux Américains, écoutez, vous voulez qu'on appelle ces gens-là des terroristes, alors nous aussi on a nos terroristes. Nos terroristes s'appellent le PKK, ils sont d'ailleurs sur la liste des terroristes de votre gouvernement, de la liste des terroristes de la plupart des pays européens également. Donc on va lutter contre vos terroristes, mais vous nous laissez lutter contre nos terroristes aussi. Et c'est comme ça qu'ils ont donc lancé, ouvert ce deuxième front, disons, contre le PKK. Alors, quelles conséquences pour le fragile processus de paix? La conséquence, elle a été immédiate. Dès le matin, des premiers bombardements aériens sur les bases arrières du PKK en Irak du Nord, la direction du PKK, la direction militaire du PKK, qui est justement retranchée en Irak du Nord, a annoncé qu'elle considérait que le processus de paix et la trêve... le cessez-le-feu était désormais caduc, on n'avait plus de raison d'être, et depuis, effectivement, on assiste à une série d'attentats, d'assassinats, d'attaques un peu tous azimuts dans le pays. Il y a des militaires, des policiers qui sont tués, et la situation va très mal, effectivement. Alors ça, c'est en fait, j'ai parlé du processus de paix, mais ça, c'est la trêve militaire, c'est le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est enterré, si on peut dire maintenant. En fait, le processus de paix, lui, il avait été déjà enterré, si on peut dire, par le président Erdogan lui-même à l'approche des élections, constatant que ça n'avançait pas et constatant probablement aussi que ça ne lui rapporterait pas beaucoup de voix à ces élections législatives du 7 juin dernier. Et donc le processus de paix était arrêté, était bloqué, était gelé depuis cette époque. Alors, après les élections, avec la victoire relative du HDP qui est entré au gouvernement et la défaite relative de l'AKP, on a tenté de relancer ce processus de paix, mais ça n'a pas marché. Et maintenant, avec cette situation de guerre, ça paraît encore plus difficile. Et puis pour répondre aussi à Ismaël sur l'équilibre de la région, Malheureusement, ça fait 30 ans que le PKK est en guerre, en quelque sorte, avec Ankara. Et selon les périodes, il y a eu des moments où Ankara a eu l'avantage, d'autres moments où le PKK a eu l'avantage, contrôlant des grandes parties du sud-est du pays, contrôlant militairement. Hein. Il y a eu des périodes de guerre, il y a eu des périodes de paix, comme ces 4 ou 5 dernières années, et les grands équilibres de la région n'ont jamais été bouleversés, donc ça ne changera pas grand-chose. Il y a une nouvelle donne en ce moment, c'est la force des Kurdes au nord de la Syrie, notamment militairement contre l'État islamique, et la force politique et militaire des Kurdes au nord de l'Irak. Ils sont d'ailleurs aidés par les Américains pour lutter encore une fois contre l'État islamique. Donc ça semble constituer un pôle plus important pour les Kurdes, mais les divisions entre eux font que de toute façon ils sont pas unis et ils ne sont pas capables de renverser, encore une fois, de bousculer les grands équilibres de la région.
Bien, merci beaucoup Jérôme Bastion pour ce point très complet de la situation en Turquie et à sa frontière sud. 33 9 693 693 13 70, retour au standard où nous attend Zakaria. Bonjour Zakaria.
Bonjour.
Alors vous avez une question sur l'accord sur le nucléaire iranien conclu le 14 juillet dernier. Nous vous écoutons.
Oui, c'est bien ça. J'ai une question à ce sujet. Après cet accord, le Congrès américain s'y est opposé sans mot. J'aimerais savoir quels sont les moyens et stratégies que le président Obama compte adopter pour faire passer cet accord.
Alors, c'est vrai, un petit peu d'éléments de contexte. Le 14 juillet à Vienne, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne ont signé ce fameux accord avec l'Iran sur le nucléaire au terme de 12 ans de négociations. Un compromis qui prévoit la limitation du programme nucléaire iranien pendant au moins 10 ans en échange d'une levée des sanctions internationales contre l'Iran et qui prévoit des contrôles renforcés. Et c'est vrai, Achim Lipold, que cet accord a du mal à passer chez les parlementaires américains, en particulier chez les Républicains. Est-ce que le Congrès peut faire capoter cet accord ?
Alors, pour faire court, non. Il peut rendre la tâche difficile à Barack Obama, et c'est ce qui est en train de se passer. Vous avez eu une première audition la semaine dernière. John Kerry, vous vous souvenez, est passé devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Aujourd'hui, il y a une deuxième audition devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre, où John Kerry, le secrétaire d'État américain, va donc à nouveau expliquer son accord, faire de la pédagogie pour essayer de faire passer la pilule amère aux républicains. Alors les républicains, ils dominent le Congrès, ils dominent la Chambre et ils dominent le Sénat. Donc, ils peuvent effectivement empêcher une adoption rapide de l'accord. Ils ont 60 jours pour débattre et pour donner leur avis. Donc, ça sera début septembre. Mais le président Obama peut faire son veto, peut opposer son veto, pardon, si jamais le Congrès invalide l'accord. Alors, qu'est-ce qui se passera ensuite ? Eh bien, si Obama passe, oppose en fait son veto, eh bien le texte sera renvoyé devant le Congrès, dans la Chambre et au Sénat, et donc ça rebattu encore une fois. Mais à ce moment-là, pour faire adopter à nouveau un veto du Congrès, il faudra une majorité de 2/3. Or, les républicains sont certes majoritaires dans les deux chambres, mais ils n'ont pas une majorité de 2/3.
Même s'il y a des réticences côté démocrate aussi.
Même s'il y a des réticences démocrates, ça fait un peu partie du charme, je dirais, du Congrès américain. Il y aura certainement des démocrates qui vont voter contre l'accord, donc contre leur propre camp, et il y aura en revanche aussi des républicains, on va dire un peu plus progressistes, qui vont voter pour l'accord. Donc il y a pendant 60 jours tout un jeu de ping-pong maintenant entre l'administration et les républicains. Il faut pas oublier non plus, Pierre, que nous sommes en période préélectorale. Les primaires vont commencer, ont déjà commencé. Tout le monde se positionne, surtout les 16 candidats républicains du jamais vu dans l'histoire américaine. Donc là, on est aussi dans la surenchère et électorale et dans la rhétorique politique. Mais encore une fois, pour répondre à Zakaria, le Congrès ne pourra pas bloquer l'accord que Barack Obama et les autres puissances occidentales ont conclu le 14 juillet à Vienne.
Même si l'administration Obama, on l'a bien compris, donc a un gros travail de lobbying et de conviction à faire. Merci beaucoup Arim Lipol, journaliste au service international d'RFI. Retour au standard au 339-693-693-70 pour parler d'un tout autre sujet. Pavel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez une question football concernant la Juve, je crois.
Oui. La question est la suivante. Il dit le départ de Pirlo et Tevez. Après le départ de Pirlo et Tevez.
On a du mal à vous entendre. Je vais me faire votre porte-parole, Pavel. Alejandro Valente, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour.
Alors,
à tous.
La question qu'on n'a pas réussi à entendre de Pavel, portée un peu là-dessus, rien ne va plus à la Juve. Pirlo, Tevez, Vidal s'en vont.
Oui, mais ça fait partie de la vie d'un club aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt intéressant ce qui se passe à la Juventus. Alors, c'est vrai que les trois joueurs que vous avez cités, c'est des joueurs importants. Mais si on regarde un peu la vérité en face, bon, Pirlo a 36 ans et plutôt en fin de carrière. Donc, on avait vu déjà cette année son influence s'amenuiser.
Il part à New York.
Il part à New York, voilà, pour terminer sa carrière. C'était un peu dans l'ordre des choses et ça se passe un peu partout. Le cas des TV, c'était un peu partout. Particulier, le président de la Juventus avait promis à Tevez de le laisser partir en Argentine. C'était le souhait de Tevez d'aller terminer sa carrière à Boca Juniors. Donc il a facilité son départ et il n'a pas voulu retenir contre son gré ces joueurs qui avaient apporté quand même quelque chose à la Juventus. Et les cas les plus intéressants, évidemment, c'est celui d'Arturo Vidal, le joueur chilien.
Qui part
au Bayern, 40 millions d'euros. Donc il est vendu 4 fois le prix d'achat. Donc c'est plutôt une bonne opération. Et c'était les bons moments pour le vendre. Il vient de boucler une saison exceptionnelle. Il vient de remporter la Copa América avec le Chili. C'est un joueur dont le comportement n'est pas toujours exemplaire, donc qui ne faisait pas toujours l'unanimité pour son comportement au sein du club. Donc je pense qu'ils sont plutôt satisfaits de ce départ, et d'autant qu'ils ont bien recruté. Il y a des joueurs intéressants qui arrivent. Il y a Sami Khedira, le milieu allemand qui était totalement et injustement à mes yeux mis à l'écart au Real Madrid. Il y a Mario Mandzukic, l'attaquant croate de l'Atlético Madrid, et puis des jeunes paris. Il y a Paulo Dybala qui est un excellent attaquant argentin très jeune qu'on compare souvent à Pastore, un joueur un peu polyvalent qui a des grandes qualités, un grand avenir, il n'a que 21 ans. Il y a Simone Zaza aussi, un attaquant italien qui est plein de promesses. Et puis ils hésitaient entre Mario Götze et Julien Draxler. Finalement c'est l'attaquant de Schalke 04 Draxler qui sera sans doute parmi les prochaines arrivées du côté de la Juventus. Donc je pense qu'il y a quand même une évolution qui est plutôt intéressante, qui est plutôt positive. On imagine que même Fernando Llorente, l'attaquant espagnol, va quitter le club car il y a maintenant de nombreuses solutions en attaque.
Donc gros turnover, hein, vous l'avez dit, et la question de Pavel c'était est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse de niveau? Vous dites non, hein.
Non, je ne le pense pas, d'autant que Massimo Allegri, l'entraîneur, a tenu à garder l'organisation défensive quasiment inchangée. C'est un des points forts de la Juventus, donc là il n'y a pas de changement. C'est plutôt dans les secteurs milieu de terrain et attaque que les changements ont lieu. En général, c'est plus facile d'adapter les joueurs dans ces genres de positions. Et je pense que la Juventus ne va pas souffrir de tous ces changements.
Merci Alejandro Valente, chef du service des sports à la rédaction RFI, et merci à Pavel, dont on n'a pas pu entendre la question, mais à laquelle Alejandro a parfaitement répondu. Restez avec nous dans quelques secondes, la dernière édition d'Afrique Matin, toute l'actualité africaine, et puis dans 10 minutes, restez avec nous puisque nous débattrons du processus électoral en cours en Centrafrique. Le calendrier électoral est-il tenable malgré les retards dans le recensement, malgré des conditions de sécurité pas toujours optimales? Venez en discuter avec nous au 339-693-693-70. À tout de suite.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie après le journal.